L'information est un élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
Nous sommes lundi 25 novembre 2024. Merci de nous avoir choisis pour vous informer ce matin. Exactement 6 heures passées des 15 minutes à Bukavu, même au village Koubi, en territoire décalé. D'abord, les titres de cette édition du journal. À la une de l'actualité, dans cette édition du journal, un drame à Calais fait des morts. Au total, 9 personnes, dont 8 d'une même famille, ont trouvé la mort dans un éboulement provoqué par des pluies diluviennes qui se sont abattues au village Nkoubi, groupement d'Mbinga Nord en territoire de Calais. Au sommaire également, des affrontements ont éclaté entre deux milices Hutus dans les sous-villages de Mounanira, village Ramba dans la chefferie des Bouavou en territoire de Calais. Des balles ont retenti toute la journée de vendredi à samedi, entraînant au passage un mouvement de la population. Et en sport, Ligue nationale de football, Inafoot, Illico Cash, première division, nouveau match nul à domicile pour l'OC Bukavu, 2-2 face à l'AS Rangers de Kinshasa, alors que le FC Étoile de Kivu samedi s'est relancé face à New Jack, score final 1-0. Et voilà tout pour les menus de l'actualité ce matin, Radio Mandeléo en plusieurs lettres, les journaux en trois titres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
Direction territoire décalé pour commencer cette édition du journal. 9 personnes, dont 8 d'une même famille, sont mortes dans des éboulements provoqués par des pluies diluviennes qui se sont abattues la nuit de vendredi à samedi 23 novembre dernier au village Nkoubi, groupement Mbinga Nord en territoire décalé. C'était suite au glissement des sols après les pluies diluviennes en Nkoubi, suite à quelques mètres des centres de Nyabibwe. L'administrateur du territoire décalé, Thomas Bakenga, qui nous livre l'information, explique que c'est la famille Sami Buzingo et la grande victime qui a perdu sa femme et 7 enfants qui étaient à l'intérieur de la maison. Il indique que la 9e personne est une fille qui est aussi morte dans un site d'accueil de déplacés. Thomas Bakenga demande aux habitants de Nyabibwe d'éviter des constructions sur des pentes et à privilégier plutôt les reboisements afin d'éviter d'autres dégâts.
Mais le message à donner à la population, c'est d'éviter de construire sur des collines, sur des pentes. On essaie de sensibiliser la population, mais c'est notre devoir comme État pour le faire au quotidien. Nous présentons en tout cas nos sincères condoléances à toute la communauté des Mbinga Nord et spécialement des Bouavou, Saint-Mont Lézard. Évitons de construire sur les espaces qui présentent un danger et ça pourrait tout nous sauver. En tout cas, les espaces à danger, nous avons tous sensibilisé à la population de ne pas construire, de planter les arbres. Mais malheureusement, par le moment, la population, elle n'a pas d'autre choix que ça.
En plus de ces bilans humains, cette maison a été emportée avec tous les biens, une trentaine d'autres endommagés. Une station de la coopérative agricole de lavage des cafés Kako en sigle est détruite, ainsi que plusieurs champs et d'autres actifs agricoles dévastés. Et des affrontements entre deux milices Hutus dont MCDPIN, dirigée par un certain Baïg et une autre celle dirigée par Lionceau, sont signalés dans les sous-villages de Mounanira, village Ramba, groupement de Mbuku, chefferie des Bouavou en territoire décalé depuis vendredi 22 novembre 2024. Les coups de balles ont retenti toute la journée de vendredi jusque dans la matinée de samedi 23 novembre. Les raisons pour lesquelles ces deux factions s'affrontent ne sont pas encore connues, mais une panique générale et un mouvement de la population vers les villages voisins s'observe en croire Thierry Kassissi du mouvement citoyen Obapège RDC Noyau Décalé. Celui-ci alerte les autorités sur les conséquences de cette situation sur la vie socio-économique de la population de cette partie du territoire et demande aux autorités de rétablir le plus tôt possible la sécurité. On l'écoute.
C'est depuis la journée de ce vendredi que la milice dirigée par M. Baïg et celle dirigée par M. Lionceau s'affrontent à Mubuku, village de Ramba, précisément dans les sous-villages de Mounanira. Les raisons pour lesquelles ces deux milices s'affrontent ne sont pas bien connues, mais nous alertons déjà les autorités et à la sécurité dans leurs attributions sur les dangers que cette situation causerait si l'autorité de l'État ne s'imposait pas d'urgence. Nous demandons donc aux autorités de bien vouloir rétablir l'ordre dans cette partie, car jusque même dans les premières heures de la matinée de ce samedi, les coups de balles se faisaient toujours entendre dans les sous-villages de Mounanira.
et d'un territoire à un autre. Des barrières payantes entretenues par des jeunes qui se réclament Ouazalendo sont toujours visibles sur une grande partie du territoire des Fizi, en dépit de la décision de l'autorité qui exige leur suppression car étant source de tracasseries. Constat fait par l'administrateur du territoire des Fizi, Sami Kalonji, lors d'une visite d'itinérance effectuée le week-end dans plusieurs coins de cette entité expédicale.
Ces barrières ont été identifiées dans les quatre secteurs qui composent le territoire de Fizi, mais une grande partie se trouve dans les groupements des Babungwe Nord et Bashimukuma Sud dans le secteur de Tanganyika. À tous ces endroits, tout véhicule faisant le transport en commun et les passagers sont obligés de payer de l'argent au Ouazalendo avant toute traversée, indique Sami Kalonji. Ce dernier envisage tenir une grande réunion avec les membres des services de sécurité pour mettre fin à ces tracasseries et mettre en application la décision du ministre provincial de l'Intérieur qui exige la suppression de toutes les barrières payantes sur toute l'étendue de la province.
Il y a plusieurs barrières qui sont érigées par les Ouazalendo et qui constituent une véritable tracasserie et une obligation pour tout passager, tout camion de leur laisser quelque chose. Et cette situation nous préoccupe beaucoup plus. Nous sommes en train de nous y penser avec le membre des conseils de sécurité locale pour pouvoir convoquer une grande réunion de sécurité afin que certaines mesures et certaines décisions collégiales soient prises afin de mettre fin à toutes ces tracasseries.
Entre-temps, l'autorité territoriale encourage ces éléments à Zalendo de s'impliquer dans les travaux communautaires et les travaux champêtres pour leur autonomisation en attendant qu'ils soient pris en charge dans le cadre de la RAD, réserve armée de la défense.
Et la société civile du site qui vous promet d'accompagner et appuyer les programmes de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRC, son sigle, c'était au cours, au sortir des échanges entre le coordonnateur national du PDDRC, S. William Kapoukou, et une délégation de la société civile le week-end dernier. Néné Bintou, présidente du bureau des coordinations de la société civile, indique que sa structure continuera à jouer son rôle dans la matérialisation de ses programmes à travers les actions de sensibilisation communautaire, d'éducation à la paix et d'encadrement des citoyens qui auront accepté de déposer les armes pour construire une paix durable sur toute l'étendue du pays. Tout en remerciant la coordination nationale pour les échanges avec les acteurs de la société civile, Maître Néné Bintou fait savoir que la société civile et la population tout entière veut voir les démarrages effectifs de ces programmes. On l'écoute.
On a le devoir de remercier la coordination nationale qui s'est tournée vers nous, sachant bien le rôle que la société civile doit jouer dans la matérialisation du programme que nous soutenons. C'est un programme qui intéresse toute la communauté parce que nous avons besoin de la paix, nous avons besoin de la stabilisation, nous avons besoin du développement de notre province et de notre nation tout entière. Alors, la société civile promet d'accompagner le programme.
Et donc, nous nous pensons que nous avons suffisamment d'atouts pour appuyer le programme de notre manière. Donc, nous avons besoin que le programme démarre effectivement. Nous avons bien capitalisé les consignes qui nous ont été données.
Signalons que parmi les acteurs de la société civile présents à cette rencontre, nous avons noté Mouraba Zinamegabe du BFS, Patrice Loabagouma et Vandicien Rouboneka du groupe thématique Mine de la société civile. Exactement 6 heures passées de 22 minutes à Bukavu et dans les territoires où nous sommes suivis. Mesdames et messieurs, vous suivez Radio Mandeleo. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Suivez Radio Mindeleo en direct partout dans le monde sur www.radiomindeleo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Mindeleo. Radio Mindeleo, c'est vous.
Changeons de chapitre. À présent, les habitants d'Irambo dans les quartiers de Yalukimba en commune d'Ibanda veulent voir les tronçons allant du camp Sayo jusqu'au cimetière de Ruzizi être retenus par les tronçons comme tronçons à réhabiliter dans la deuxième phase du projet Step 2. Cette recommandation ressort d'une rencontre organisée le week-end dernier par les habitants de cette partie de la ville de Bukavu et dont les débats ont porté sur plusieurs points, notamment l'état des lieux de ces tronçons routiers. À cette occasion, les participants ont décidé d'organiser des actions citoyennes pour faire entendre leur voix. C'est notamment un sit-in vendredi sur ces tronçons et le dépôt d'un mémorandum à l'autorité provinciale afin qu'il s'y penche. Pour les rapporteurs de la société civile de Noyau de Nyalukimba et Lambo Sango Bienfait, cette route sert les 20 quartiers que compte la ville de Bukavu, car tous les habitants se rendent au cimetière de la Ruzizi pour enterrer les leurs. Et Lambo Sango Bienfait en parle.
La population constate avec regret que jusque-là, elles restent abandonnées et ceux qui allaient enterrer leurs morts transportent les dépouilles mortels sur leur tête quand il pleut surtout. Il a été décidé de ce qui suit. 1. De faire une lettre signée conjointement et qui sera envoyée le mardi à l'autorité provinciale. Un délai de 2 semaines sera donné pour la cause. 2. Un sit-in sera tenu ce vendredi pour manifester notre mécontentement. Vous êtes sans ignorer que cette route ne sert pas seulement la population d'Irambo, mais de toute la ville de Bukavu. Ça reste un seul endroit pour enterrer aujourd'hui.
Notez qu'une commission a également été mise en place à cette occasion pour mêler les suivis et se rassurer de la prise en compte des recommandations des habitants d'Irambo dans un délai de 2 semaines. Et la population des groupements de Karongo, Nyangezi et Kasheni à Kamanyola a reçu la première dose des vaccins de lutte contre l'impox se sont appelés à se rendre au centre de santé de la place pour recevoir la deuxième dose. Cet appel est du médecin chef des zones de santé de Nyangezi, le docteur Olivier Kabarat. Le week-end dernier, lors d'un échange avec les relais communautaires de la zone de santé de Nyangezi et les leaders locaux de Mounia. Le médecin chef des zones de santé de Nyangezi invite également ceux-là qui ne sont jamais fait, se sont jamais fait vacciner, de passer également pour recevoir leur première dose de vaccin. On écoute le docteur Olivier Kabarati.
La campagne de vaccination contre l'impox évolue très bien, mais nous avons la contrainte du temps. Nous devons terminer la campagne de routine dans les 48 heures. Donc nous avons encore samedi, dimanche pour terminer la campagne de vaccination. C'est ainsi que vous avez vu notre partenaire Breakthrough Action BA venir booster cette campagne de vaccination. Et donc, nous avons changé de stratégie. Non seulement, on va vacciner tous les cas contacts, mais aussi, nous prenons aussi les cas qui étaient vaccinés lors du premier passage, peuvent aussi passer pour prendre la seconde dose. Donc là, nous appelons vraiment la population de la zone de santé de Nyangezi. Ceux qui se sont fait vacciner lors du premier passage peuvent déjà passer récupérer la deuxième dose. Mais aussi, tous les gens qui ont été en contact avec les malades impox doivent aussi passer pour se faire vacciner ici au niveau du centre de santé de Mouy.
Le docteur Olivier Kabarati au micro de notre correspondant à Nyangezi Pacifique Mamagou. La zone de santé de Nyangezi compte à ces jours plus de 2000 cas déclarés parmi lesquels 3 décès. Et elle a 2 centres de traitement qui se trouvent l'un à l'hôpital général de référence de Kamina et l'autre à l'hôpital général de référence à Saint-Joseph de Kamanyola. Et dans ce même chapitre, les habitants de la commune de Kadutu en général et ceux du quartier Timpunda en particulier sont appelés à respecter les gestes et barrières pour se protéger contre la maladie des varioles de singe dit impox dans cette partie des Bukavu. Appel lancé le week-end dernier à l'occasion d'une séance de sensibilisation sur le manque impox organisé par la paroisse Notre-Dame de la Miséricorde de Timpunda en commune de Kadutu. Témoin de l'événement, Alain Kabeka.
L'orateur du jour, le docteur Fabien Bakinga, est membre du secrétariat exécutif du comité provincial de coordination Une Santé au Sud Kivu, a expliqué que depuis septembre 2023, la province a enregistré plus de 15 000 cas d'impox. Et la commune de Kadutu à elle seule en compte plus de 400. Il ajoute que la seule façon de se protéger contre cette maladie, c'est respecter les gestes et barrières comme le lavage régulier des mains, éviter les contacts avec les malades d'impox, ne pas partager les effets avec le malade et déférer vers les structures sanitaires les personnes présentant les signes de cette maladie. Pour sa part, l'initiateur de cette activité est curé de la paroisse de Timpunda, le père Jean-Marie Bukasa Malou, explique que l'objectif poursuivi est de couper la chaîne de transmission du monkeypox. Le père Jean-Marie Bukasa Malou.
En tant que pasteur, je pris conscience de lancer une campagne de sensibilisation contre l'épidémie de pox. Notre mission est d'alerter la population à lutter ensemble contre cette épidémie qui dérange tout le monde pour l'heure. Le message est celui d'adhérer à ce concept Chumpunda zéro impox, Kadutu zéro impox.
Le participant pour leur part salue la tenue de cette activité et promet d'intensifier les sensibilisations auprès de la communauté. L'un d'eux est chef du quartier Nyakaliba, Faustin Bourroco en parle.
La maladie monkeypox ravage un grand nombre de notre population. On ne peut pas exister si vous êtes malade. Tout le monde qui a participé à l'activité, chacun a compris qu'il est très important de s'approprier l'activité.
L'activité s'est tenue dans la salle Père Michel de la paroisse de Timpunda sous le thème Timpunda Zéro Mpox. C'était en présence de plusieurs invités dont des directeurs d'école, des cadres de base, des leaders communautaires, la police et des représentants de la jeunesse.
Et direction territoire à Deschabunda où un bras de fer entre les services de la jeunesse et le conseil territorial de la jeunesse est observé pour cause la non-tenue de l'Assemblée générale élective car le mandat de l'actuel comité a dépassé jusqu'à 14 ans. Les points avec notre correspondant à Chabunda, Papi Mulingati.
Le comité du conseil territorial de la jeunesse du territoire de Deschabunda est sous menace de dissolution ou suspension totale de toutes les activités sur l'ensemble du territoire. Telle est la décision du chef de service de la jeunesse des toits de Chabunda lors d'un entretien avec la presse locale. Selon M. Massoudi Kamounyobé, cette décision est la conséquence de la résistance des membres du comité actuel du CTJ qui a déjà réalisé 14 ans au pouvoir sans tenir l'Assemblée générale élective. Ainsi, un moratoire d'un mois est accordé pour la tenue de l'Assemblée générale élective de CTJ Chabunda. À défaut, l'État va se charger de ses activités. Monsieur Massoudi Kamounyobé.
Nous allons maintenant mesurer la balance. Nous saurons où est le poids. Si ce sont eux, bon, nous autres, nous allons parvenir à être à l'air. Mais si c'est moi, le gouvernement qui a le pouvoir, lorsqu'il va arriver, nous allons prendre des mesures. Et ces mesures ne seront pas d'autres que prohiber toute personne qui va encore se prendre comme il est dans la structure de la jeunesse. Celui-là sera arrêté.
De leur côté, les membres de l'actuel comité de CTJ qui vient de dépasser le mandat précisent qu'il n'y a pas refus de la tenue de l'Assemblée générale élective. Toutefois, le président de l'actuel comité est à l'intérieur du territoire et celui qui assume l'intérim se dit n'a pas qualité de tenir ce genre d'activité. Depuis Chabunda, Papi Mulingati, Radio Maendeleo.
Et avant de parler sport, à 6h passées des 30 minutes à Bukavu, au total 237 tonnes de semences vivrières composées de maïs, haricots, arachis, soja et riz irrigués ont été réceptionnées les samedis derniers par le ministre provincial de l'Agriculture Didier Kabi au nom du gouvernement provincial. Cette réception des semences certifiées est les fruits du plaidoyer mené par lui auprès du ministre national de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Ian Emouan, dans la capitale Kinshasa, Omer Moudekereza.
Il indique que cette dotation est en faveur de la population agricole du Sud Kivu pour l'ensemencement des champs afin de concrétiser la politique de la revanche du sol sur les sous-sols prônée par le président de la République. Le ministre de l'Agriculture ajoute que le plaidoyer a été mené après avoir remarqué que la province du Sud-Kivu n'a plus bénéficié des semences du gouvernement central depuis plusieurs années. Pourtant, il dispose d'un potentiel agricole important. Didier Kabi a prévenu la population que ces semences ne sont pas destinées à la consommation, d'où l'attention attirée des uns ou des autres sur les conséquences qui peuvent en subvenir. On l'écoute.
Il est inconcevable qu'une province aussi riche en potentialité agricole puisse continuer d'importer la majorité de ses denrées alimentaires. Ce paradoxe doit cesser. Aujourd'hui, avec la réception de ces semences de qualité, nous avons une occasion unique de redonner à notre province sa vocation agricole. Les semences que nous recevons à Saint-Jour, composées de variétés telles que le maïs, les riz, l'arachide, les haricots et les soja, sont destinées à booster la production agricole dans nos 8 territoires et dans la ville de Bukavu.
Précisons que lors de cette cérémonie de réception de ces intrants, destinant aux ménages agricoles et concessionnaires du Sud Kivu, Esther Riziki, chef de division de l'agriculture et sécurité alimentaire à province, a indiqué qu'au total, 11 050 ménages vont bénéficier de ces semences avec une production attendue de 6 619 000 kg, ce qui va répondre tant soit peu aux besoins primaires en alimentation de la population et en semences pour des saisons futures.
Merci Omer Amoudekereza. Et à 6h passées des 32 minutes à Bukavu, même heure au stade de la Concorde en commune de Kadutu. Merci de suivre la seconde partie de cette édition du journal sur les www.radiomaindele.org. À présent, nous parlons sport.
La passion du sport, c'est sur les ondes de la radio Maendeleo. Du lundi au samedi, retrouvez toute l'actualité sportive dans sa diversité sur la meilleure des fréquences.
Ligue nationale de football Inafoot Iliko Cash première division, l'OC Bukavu d'or contraint à un nouveau match nul cette fois face à Rangers de Kinshasa, 2-2. Pourtant, les Corbeaux y ont cru jusqu'au bout après l'ouverture du score. Ils ont concédé l'égalisation avant d'encaisser un nouveau but sur une erreur de la défense à la 65e minute. C'est finalement 10 minutes après, soit à la 75e minute, que les Corbeaux vont égaliser pour obtenir les points du match nul. Après New Jack de Kinshasa, c'est Rangers, une autre équipe de Kinshasa, qui décroche un point face à Bukavu. Kivu, qui aura tout intérêt à se relancer au prochain match. L'autre représentant du Sud Kivu, à savoir les FC Étoiles du Kivu, s'est relancé samedi en dominant New Jack de Kinshasa sous le score étriqué d'un but à zéro. Une victoire qui redonne les sourires aux oranges de Bukavu après une série noire dans cette compétition. Étoiles du Kivu aura donc à cœur de poursuivre sur cette même lancée, alors que les prochains adversaires se nomment les Aigles du Congo, l'une des équipes en forme du championnat cette saison. Et en Ligue 2 de la Lina Foot place ce lundi à la suite de la compétition avec Bukavu, plus précisément au stade de la Concorde en commune de Kadutu, les chocs entre l'OC Mungano et Mulazo de Walungu. Une belle opportunité pour les Chalalilés de confirmer, alors que Mulazo tentera de se relancer après leur première défaite de la compétition. Et à Goma, Académie Real de Bukavu sera reçue par Kapako de Beni au stade de l'Unité. Et en basketball, les Léopards de la République démocratique du Congo terminent sans faute les éliminatoires de l'Afro-Basket 2025. Les fauves congolais ont dominé le Sud-Soudan après prolongation 76-69. Les Congolais terminent avec 3 victoires en 3 sorties dans cette première fenêtre de l'Afro-Basket 2025.
La revue de presse. Radio Maïdélé au Cap vous décrypte et vous présente les nouvelles des journaux paraissant à Bukavu et dans la capitale.
Et avec vous, Alain Kabika, les séjours de la première ministre Judith Suminwa dans la province de l'Ituri, l'annonce des enquêtes sur l'acquisition d'un immeuble à Bruxelles par les procureurs généraux près la Cour des cassations Firmin Vondé et la journée de prière pour la paix à l'est de la RDC organisée à Goma par les leaders des confessions religieuses font partie des sujets commentés par les journaux Paris le week-end à Kinshasa.
La première ministre Judith Suminwa est arrivée le samedi 23 novembre 2024 à Bunia en province de l'Ituri après un passage à Goma au nord Kivu, accompagnée de nombreux ministres et parlementaires originaires de ces coins, annonce le site internet radiokapi.net. Pendant son séjour, ajoute radiokapi.net, Suminwa compte échanger avec les différentes couches de la population pour évaluer l'état des sièges instaurés depuis plus de 3 ans dans cette province. Selon les attentes des uns, il faut alléger cette mesure exceptionnelle dont l'impact est indéniable dans les entités déjà sécurisées, notamment Aru et Mahagi. La situation sécuritaire s'est nettement améliorée depuis l'instauration de l'état de siège, affirment certains acteurs politiques. Ils citent notamment la restauration de l'autorité de l'État dans plusieurs localités, jadis occupées par les groupes armés, surtout dans les territoires d'Irumu et une partie de Djougou. Ce qui a produit comme résultat les retours des milliers de déplacés et la libre circulation des personnes et de leurs biens. Dans les cadres de développement, plus de 50 km de la voirie urbaine asphaltée et la réhabilitation des axes routiers d'intérêt national et provincial. Par contre, argumente Radio Capi, d'autres estiment que l'état des sièges n'a pas atteint son objectif principal, qui est la neutralisation des groupes armés locaux et les ADF qui occupent encore plusieurs villages. Certains habitants lassés des conflits armés depuis 2017 restent indifférents à ce qu'ils qualifient de énième visite des hautes autorités du pays sans impact visible. Dans une déclaration empreinte de gravité, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, a annoncé la semaine dernière l'ouverture d'enquête pour dissiper les ondes d'ombre autour de l'achat d'un immeuble à Bruxelles par Firmin Vondé, procureur général près la Cour des cassations, titre dans un autre sujet le site internet actualité.cd. D'un montant de 900 euros, cette acquisition a été révélée par Africa Intelligence. Firmin Vondé, magistrat chevronné et figure emblématique de la justice congolaise, est désormais au centre de toutes les attentions. Né en 1959 dans le Congo central et diplômé en droit privé judiciaire de l'université de Kinshasa, rappelle ce site internet, Vondé a gravi les échelons au fil des années, officiant dans diverses juridictions du pays. Cependant, l'origine des fonds ayant permis cet achat soulève des interrogations. Face à ces révélations, suppute actualité.cd, l'enrichissement illicite des responsables publics apparaît comme une trahison des pertinents de justice et un obstacle au progrès du pays. Pour l'ONG Congo n'est pas à vendre, CNPAV en sigle, il est temps que la RDC et ses partenaires internationaux agissent avec détermination contre ces fléaux, souligne ce site internet d'information. Les leaders des confessions religieuses au Nord Kivu ont participé le week-end dernier à Goma à une journée de prières en faveur du retour de la paix dans l'Est du pays, organisée par le petit déjeuner des prières en collaboration avec Africa Youth Leadership Forum, annonce pour sa part 7sur7.cd. Organisée sous le thème « Le leadership selon les modèles de Jésus Issa, la paix », cette journée de prière a aussi connu la participation des leaders politiques, administratifs, scientifiques, économiques, religieux et de la société civile, auxquels s'ajoutent des visiteurs qui sont venus pour prier pour les pays en cette période d'agression rwandaise. Invité à cette journée de prière, le président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu, Robert Seninga, a appelé ses collègues politiques à s'inspirer du leadership de Jésus Issa en priant pour les pays, conclut ce site internet d'information.
Et ce communiqué avant de clôturer complètement cette édition du journal, le message de condoléances, c'est avec larmes aux yeux que je présente mes condoléances les plus attristées aux familles éprouvées dans les groupements d'Mbinga Nord, précisément à Nyabi Bwenkubi, famille Bizingu et famille Lokenzi, où les terres ont englouti les maisons suite aux éboulements des terres dans la nuit du Vendée au 23 novembre 2024. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que leurs âmes reposent en paix. Honorable Koko Chirimwami Hakim, député provincial élu de la circonscription électorale de Calais, signe ses communiqués. Heures passées de 39 minutes à Bukavu, et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information matinale sur Radio Maïndéléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec attention, mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. Un drame à Calais fait des morts. Au total, 9 personnes, dont 8 d'une même famille, ont trouvé la mort dans un éboulement provoqué par des pluies diluviennes qui se sont abattues au village Nkoubi, groupement d'Mbinga Nord, en territoire de Calais. Et des affrontements ont éclaté entre deux milices Hutu dans les sous-villages de Mounanir, un village Ramba dans les chefferies de Bouavou, en territoire de Calais. Des balles ont retenti toute la journée de vendredi à samedi, entraînant au passage un mouvement de la population. Et en sport, Ligue nationale de football INAFOOT, Illico Cash, première division, nouveau match nul à domicile pour l'OC Bukavu, 2 buts partout face à la Serrandière de Kinshasa, alors que les FC Étoiles du Kivu s'est relancé samedi face à New Jack, score final 1-0. La mise en onde était celle d'Emile Mouin, dont la présentation est Rété Boroto. Excellente matinée et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes des Radio Maïndéléo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre confrère Alain Kabika. Retrouvez-la donc sur le www.radiomaindeleo.info. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.